Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba. Nous sommes dimanche 18 juillet 2021. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Josephine Johnson-Munzeman. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité par la visite de 2 jours du chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, en République démocratique du Congo. À la fin de cette visite, des mesures ont été prises dans le sens de renforcer les relations bilatérales. Parmi ces mesures figure la réalisation des projets de grande importance dans le développement des échanges, la réhabilitation des routes qui lient les deux pays, sans oublier l'éradication des groupes armés opérant sur le sol congolais. Les détails avec Beni Axela Kana.
Dans le cadre de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, au terme de la visite, des mesures ont été prises. Entre autres, les deux pays ont convenu de promouvoir l'échange de visites entre les délégations des deux pays dans le sens de rendre effective la mise en œuvre des accords conclus. Ils ont souligné l'intérêt de réaliser des projets d'une grande importance dans le développement des échanges commerciaux et la mobilité des populations. Il s'agit notamment de la construction de ponts pour véhicules et piétons sur la rivière Rusizi qui sépare les provinces du Sud Kivu en RDC et Cibitoke au Burundi. L'exploitation agricole de la plaine de la Rusizi, l'électrification de la route Bujumbura-Uvira-Bukavu-Goma font partie des mesures prises. Au niveau régional, les deux pays se sont accordés sur le soutien mutuel pour adhérer dans des organisations. Ainsi, la RDC soutiendra le Burundi à adhérer à la SADC et le Burundi fera de même à la RDC pour adhérer à la communauté est-africaine. Un autre point très important sur lequel les deux chefs d'État se sont engagés, c'est l'éradication des groupes armés opérant sur le territoire congolais et de suivre de près toutes les questions relatives à la sécurité à la frontière des deux États. Il lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle s'investisse davantage dans la résolution pacifique des crises sécuritaires et humanitaires dans la région et dans d'autres zones de conflit en Afrique, afin de faire taire les armes sur le continent à l'horizon de 2030, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine.
La visite du président burundais à Kinshasa s'inscrit dans la continuité de l'agenda politique du président congolais Félix Tshisekedi de travailler ensemble avec les voisins de l'Est pour une sécurité collective. C'est l'analyse du groupe d'études sur le Congo, GEC, un centre de recherche de l'Université de New York. Trésor Kibangula, son analyste politique, indique que le président Tshisekedi avait déjà rencontré à cet effet Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. C'était le tour du président Evariste Ndayishimiye. Ils doivent traquer ensemble les groupes armés qui pullulent dans cette région orientale de la RDC. On écoute Trésor Kibangula.
En fait, depuis son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi revendique une politique d'ouverture. C'est dans ces cadres qu'il faut inscrire cette visite du chef de l'État burundais, même dans la sous-région des Grands Lacs où les rapports sont tendus, notamment entre Bujumbura et Kigali ou Kampala et Kigali. Kinshasa, lui, tient à avoir des relations apaisées avec ses voisins de l'Est. C'est pourquoi Félix Tshisekedi s'affiche avec tout le monde. On l'a vu récemment avec le président ougandais Yoweri Museveni, mais aussi avec le Rwandais Paul Kagame. C'est au tour aujourd'hui du Burundais Evariste Ndayishimiye. Mais à vouloir embrasser tout le monde, il sera sans doute difficile pour le chef de l'État congolais à bien faire avancer ou imposer son agenda diplomatique dans la région. C'est justement là le pari du président congolais Félix Tshisekedi, promouvoir des relations apaisées dans la région des Grands Lacs pour qu'ensemble les pays de la région travaille à la fois pour la sécurité collective et pour le développement. Très vite, d'ailleurs, il vous en souviendra, Tshisekedi avait tenté de pousser pour la mise en place d'un état-major intégré pour contribuer à la traque des groupes armés nationaux et étrangers qui pullulent comme ça dans la partie orientale de la RDC. Mais ces projets, on le sait, n'avaient pas abouti, notamment à cause de rapports toujours compliqués entre certains pays de la région. Quant aux aspects économiques, on connaît l'enthousiasme du président Tshisekedi pour la zone de libre-échange du continent africain, mais aussi pour l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Bref, l'intérêt aujourd'hui de Kinshasa consiste à essayer de mettre dans le même bateau tous ses voisins de l'Est. Le pari est donc difficile.
Au chapitre de la diplomatie, c'est aussi cette visite de deux jours de la présidente de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, au Burundi. À l'issue de cette visite, plusieurs accords bilatéraux basés essentiellement sur les échanges commerciaux ont été signés entre les deux pays. Au chapitre des droits de l'homme, les propos du chef de l'État Évariste Ndayishimiye sur les disparitions forcées au Burundi lors de son entretien avec le journaliste de France 24 et RFI sont mensongers. Selon Pacifique Nina Adwe, la campagne Ndondeza du Fokode a déjà confectionné 200 dossiers de disparitions forcées, y compris celles perpétrées sous le régime Ndayishimiye. Le point avec Trifine Kaniwabu.
Le respect des droits humains comme condition pour restaurer la coopération entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne n'est qu'un prétexte. C'est ce qu'a indiqué aux journalistes de la radio France Internationale et France 24, Évariste Ndayishimiye. De la question des disparitions forcées, il dément.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez un nom, telle personne est disparue. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des criminels qui, juste après le crime, ils vont au Rwanda. Et nous n'avons pas le droit d'aller fouiller au Rwanda. Vous savez qu'il y a eu 19 criminels qui ont saccagé une famille, qui ont tué des personnes à Kayanza, et après ils ont fui vers le Rwanda. Jusque maintenant, ils sont au Rwanda. Et les gens disent qu'ils sont disparus, mais je sais qu'ils sont quelque part.
La campagne d'Ondeza se dit choquée de tels propos. Pacifique Ninina Azoué, président, désespère que cela confirme la continuité des crimes de disparition forcés.
Les propos tenus par le président Ndayishimiye à propos des victimes de disparitions forcées au Burundi sonnent comme un poignard dans la plaie béante des familles des victimes de disparitions forcées au Burundi. Les propos d'Évariste Ndayishimiye confirment aujourd'hui encore une fois que le régime s'engage dans la continuité des crimes graves qui ont caractérisé le régime précédent de Pierre Nkurunziza. Et nous avons des informations sur au moins une trentaine de cas depuis la prise du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Je rappelle qu'il n'y a qu'une semaine seulement que, par exemple, le président du parti CNL dans la commune Mutimbuzi, Eli Ngomirakiza, qu'il a été arrêté par un officier de l'armée burundaise et que depuis ce moment, il n'y a aucune nouvelle.
Pacifique Ninina Hazoué dément les affirmations gratuites d'Évariste Ndayishimiye selon lesquelles il y aurait des combattants qui sont au Rwanda, parmi lesquels il y aurait des personnes qui avaient été déclarées disparues.
J'aimerais lui demander où se trouverait un seul rapport qui aurait déclaré que ces rebelles étaient, sont des victimes de disparitions forcées. Je rappelle qu'il s'agit de combattants qui ont été arrêtés par l'armée rwandaise dans la forêt de Nyungwe et que les autorités rwandaises ont déjà présenté ces combattants à un mécanisme de la CIRGR. Quand Évariste Ndayishimiye demande seulement un seul nom, laisse-moi au moins lui demander si réellement il considère l'ancien député du CNDD-FDD, Oscar Nassano, qui a été enlevé le 20 avril 2017 par des agents du renseignement, si vraiment il considère son ancien compagnon comme un criminel qui se cacherait aujourd'hui au Rwanda. J'aimerais qu'il donne une réponse. Alors je pourrais répéter tous les autres cas. Je m'arrête à ce seul cas. J'aimerais vraiment qu'il nous dise qu'il croit qu'il s'agit d'un criminel qui se cache aujourd'hui au Rwanda.
Pour rappel, certains de ces dossiers des disparitions forcées au Burundi sont parmi les dossiers qui ont été déposés à la Cour pénale internationale. Les avocats des victimes de violations des droits humains ont porté plainte et ont déjà déposé plus de 2000 dossiers qui sont en cours de traitement.
Les administratifs qui ont abusé de leur pouvoir pour s'adonner à des destructions abusives doivent reconstruire tout ce qu'ils ont démoli d'ici deux semaines. L'ordre a été donné au cours de cette semaine écoulée par le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirokobucha, dans une descente qu'il a effectuée en commune Mukaza à Mugoboka. Il dit avoir constaté ces abus. On l'écoute.
Nous sommes venus tôt ici pour constater nous-mêmes à propos des plaintes de la population que nous entendions depuis quelques jours disant que leurs maisons ont été détruites. Nous l'avons tous vu et le constat que nous venons de faire est que ce qui s'est passé ici est triste. Ce qui nous étonne et nous fait très mal, c'est qu'aucun agent de l'urbanisme n'est jamais venu viabiliser ici. Aucun agent de l'urbanisme n'est venu pour déterminer où les routes seront tracées. J'ai même l'impression que ce ne serait pas facile de le faire même si on le décidait maintenant. Je voulais montrer que dans tout cela, les ordres du ministère de l'Intérieur n'ont pas été respectés. Pour cette raison, je voulais demander à ceux qui ont fait ça, et c'est la dernière chance que je leur donne, que d'ici 2 semaines, ils aient eux-mêmes reconstruit tout ce qu'ils ont détruit. Et si ce qu'ils ont détruit a causé une fissure quelque part, ils doivent tout démolir pour reconstruire et remettre en bon état. Et je leur demande que je n'entende personne se plaindre d'avoir été maltraité. Ils vont utiliser leurs propres moyens pour remettre les choses dans leur état initial. Ils vont s'organiser comme ils l'ont fait quand ils ont détruit. Tout ce que je veux, c'est qu'à mon retour ici dans 2 semaines, les maisons retrouvent leur état d'avant.
Parmi l'actualité qui a marqué cette semaine en économie, toute transaction ou paiement des biens et services en devise est interdite par la Banque centrale sur tout le territoire national. Seuls les prêts ou garanties destinées au paiement des importations peuvent être réglés en devise sur délogation. Cela a été dit ce mardi par Diane et Joseline Bizimana du service de la communication de la BRB dans un point de presse qu'elle a animé à ce propos. Je vous prie de l'écouter.
Cette transaction concerne notamment la location des maisons, la consultance, les frais scolaires et les achats des biens et services. Ces paiements en devise sont faits soit en cash, soit par virement bancaire au compte des fournisseurs de biens ou de services résidant au Burundi. À cet égard, la BRB rappelle l'unité monétaire ayant cours légal en République du Burundi est uniquement le franc burundi. Toutes les transactions monétaires conclues localement et concernant des biens situés au Burundi ou des services rendus au Burundi sont exprimées et réglées en bif. Les services rendus aux non-résidents par les compagnies aériennes, les agences de voyage, les compagnies et agences de transport internationales, les transitaires, les services chargés des frontières et des étrangers, les services portuaires et aéroportuaires et l'autorité fiscale peuvent être facturés et réglés en devise. Toutefois, il est interdit à ces prestataires de services d'exiger aux résidents d'effectuer des paiements en devise. Les prêts ou garanties en devise aux résidents sont interdits, sauf dérogation de la BRB et à condition que ces prêts soient destinés au paiement en devise des importations. La BRB rappelle que les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Selon Faustin Dikouma, un expert en économie des pays qui n'ont pas appliqué cette mesure, la monnaie nationale est dominée par la monnaie étrangère. Suivez Faustin Dikouma.
Parmi les 3 rôles de la monnaie, il y a le rôle de service d'échange, de moyens d'échange, de biens et services. Et ensuite, vous savez que la monnaie burundaise rentre dans le cadre de ce qu'on appelle monnaie fiduciaire. Ça veut dire les monnaies qui reposent sur la confiance. Et dans ce cadre, il arrive des cas où les banques centrales ou le gouvernement prennent des mesures pour protéger la confiance dans les monnaies nationales pour que ces monnaies puissent continuer à jouer le rôle fondamental de servir de moyen d'échange. Vous savez que dans le passé, dans les pays comme le Zaïre ou le Zimbabwe, il y a eu des cas où la perte de la valeur de leur monnaie faisait que les citoyens préférer faire des transactions en dollars à l'intérieur même du territoire national. Des transactions en dollars, aller au marché, dans les alimentations, on règle les affaires en dollars. C'est un indicateur que même la population avait déjà complètement perdu la confiance dans leur monnaie. Donc la Banque centrale alors veut prendre des mesures justement pour prévenir cette situation parce que c'est une mesure qui rappelle aux gens que les transactions à l'intérieur du Burundi se font en frambou. Même si c'est un touriste qui vient, il doit aller faire l'échange dans les maisons habilitées et il doit faire les transactions donc en frambou. On peut régler l'équivalent du montant en dollars mais régler en frambou. Ça dépend alors des contrats, comment et ces contrats sont consommés. Des mesures allant de nature à protéger la confiance surtout de la monnaie nationale. Tout à fait légitime que ces mesures soient prises.
Parlons éducation avant de clore cette rétrospective de l'actualité. Un responsable d'une école fondamentale est accusé de viol sur mineurs. Cela s'est passé en commune Kiremba de la province Ngozi. Le directeur de l'Ecofo, Kidasha, a mis enceinte une élève de la 6e année de cet établissement. Les parents de l'adolescente réclament des sanctions. Les détails avec Trifine Kaniwabu.
Ce directeur de l'école fondamentale de Kidasha s'appelle Liber Mawenayo. Selon des sources à cet établissement scolaire, l'écolière mise enceinte est âgée de 16 ans. Elle habite à la colline Kidasha. Le fait qu'elle a été violée et rendue enceinte par celui qui était censé la protéger révolte ses parents. Des voisins de la victime affirment que Liber Mawenayo, auteur présumé de la grossesse, et le directeur communal de l'enseignement en commune Kilemba ont déjà entrepris des manœuvres visant à dissuader les parents à porter plainte pour que le dossier soit classé sans suite. Ce qui préoccupe les défenseurs des droits de l'homme. Les parents de la victime ne comptent pas lâcher prise. Ils demandent plutôt que son responsable soit traduit en justice. Nous avons essayé de joindre par téléphone le directeur de l'Ecofo Kidasha et le directeur de l'enseignement en province Gozi, mais en vain. Contacté par la radio Inzamba, le DCE Kilemba fait savoir qu'une enquête a été ouverte, mais que le fait que le présumé auteur de la grossesse ne soit plus joignable à son portable rend l'enquête difficile. Il précise par ailleurs qu'une correspondance a été adressée dans ce sens à ses supérieurs qu'il ne cite pas et aux autorités administratives de Kilemba. Ils décideront alors de la suite à réserver à ce dossier selon toujours le décès Kilemba.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un très bon dimanche chez vous. Au revoir.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.